Le journal présenté par Cédric Hermel.
Bonjour à tous. Nouveau point d'achoppement autour de l'explosion de l'usine Lubrisol à Rouen. Faut-il déclarer l'état de catastrophe technologique ou pas? Il est réclamé par plusieurs élus locaux. En face, l'État refuse la requête pour le moment. Une question, celle de la radicalisation au sein de la police. 3 jours après l'attaque au couteau à la préfecture de police de Paris. Question posée par le travail de 2 députés après 1 an d'enquête. Nous entendrons l'un d'entre eux. Un scrutin en cache un autre en Tunisie. Les élections législatives se déroulent demain dans l'ombre d'une présidentielle qui a part l'attention du pays. La Corée du Nord et les États-Unis de nouveau face à face. 3e ronde de négociations entre les deux pays en terrain neutre à Stockholm en Suède pour trouver un accord sur la dénucléarisation du pays dirigé par Kim Jong-un. Les élus locaux et le gouvernement s'écharpent toujours, 8 jours après l'incendie de l'usine Lubrisol à Rouen, autour d'un point, celui de la reconnaissance d'un statut particulier, la catastrophe technologique. Pour l'heure, l'État refuse de prendre un décret en ce sens. C'est ce qu'a indiqué hier la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye. Elle précise que les dégâts avérés sont très éloignés de ceux subis par la ville de Toulouse lors de l'explosion de l'usine AZF il y a 18 ans. Une position qui fait vivement réagir le député de Seine-Maritime, Christophe Bouillon. Pour l'élu socialiste, le gouvernement n'a pas réalisé l'ampleur des dégâts environnementaux.
Quand il y a des habitants aujourd'hui qui se tournent vers leur assurance, on leur dit « on ne peut rien pour vous tant qu'on n'a pas cet état de catastrophe technologique ». Même si ce n'est pas forcément des grosses sommes qui sont en jeu, il y a eu concrètement nécessité pour beaucoup d'habitants de procéder à des nettoyages. Il y a encore d'ailleurs des sols, hein, vous savez, des maisons avec des jardins. Et puis par ailleurs, il y a encore sans doute des effets de ces catastrophes qui ne se font pas ressentir aujourd'hui, mais qui pourront se faire ressentir demain. Je demande la reconnaissance de l'état de catastrophe technologique parce que ça correspond à la réalité vécue par les habitants de ce territoire. Je crois que vis-à-vis de la population dont on mesure aujourd'hui l'inquiétude, la reconnaissance de cet état de catastrophe, je pense, est parfaitement légitime. Si on ne le fait pas, demain, et c'est normal, les habitants qui vivent à côté de Siveso se diront « Ah, si je comprends bien, il faut vraiment que ça soit l'équivalent d'AZF, sinon on n'aura rien. »
Le député Christophe Bouillon. Le réchauffement climatique et le sort de la planète au cœur de discussions entre 150 Français tirés au sort. La Convention citoyenne pour le climat a commencé hier. Leur rôle, proposer des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030. Un tour de table issu des propositions du Grand Débat National est demandé par Emmanuel Macron. Premières indications sur la teneur des débats demain après-midi. L'attaque au couteau au sein de la préfecture de police de Paris jeudi pose la question de la radicalisation dans les services publics. Peut-on parler d'une menace et si oui, de quelle ampleur? La question a fait l'objet d'un rapport sur lequel ont travaillé 2 députés, Éric Diard pour Les Républicains et Éric Pouliat pour La République En Marche. Un travail d'un an d'enquête et d'une 50aine d'auditions dans les hôpitaux, les aéroports, la gendarmerie et la police. Éric Pouliat, co-auteur du rapport, est surpris car les agents des forces de l'ordre sont selon lui particulièrement surveillés.
La police et la gendarmerie sont des services qui ont déjà mis en œuvre des moyens efficaces de lutte, de prévention contre la radicalisation. Des agents qui sont criblés, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils sont soumis à une enquête administrative au recrutement et pendant leur activité, il y a aujourd'hui 30 à 35 fonctionnaires ou militaires qui sont suspectés de radicalisation, des personnes qui peut-être à un moment donné ont émis un signal faible, un comportement un peu douteux ou disons une pratique religieuse un peu trop appuyée sur 300 000 agents. Donc on est vraiment sur des proportions extrêmement faibles. Les services publics qui nous ont inquiétés, c'était plutôt le sport, les transports publics, la prison, qui nous a apparu véritablement sous-doté en termes de réponse. Mais la radicalisation, c'est un combat qui n'est jamais gagné. Le combat, il est gagné à partir du moment où le passage à l'acte ne se fait pas, où la prévention est là et où on intervient suffisamment tôt pour que on puisse écarter la menace.
Éric Pouliat, député LREM de Gironde, avec Cécilia Arbona et le groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, annonce qu'il va demander une enquête parlementaire sur la radicalisation au sein de la police. C'est un scrutin qui est en train de passer sous les radars en Tunisie. Les élections législatives se déroulent demain et sont déterminantes pour l'avenir du pays puisqu'elles doivent définir une majorité politique et le choix est pléthorique avec plus de 1500 listes, plus de 15 000 candidats, pardon. Mais cette élection est prise dans l'entre-deux-tours d'une présidentielle qui accapare toute l'attention avec l'un des finalistes en prison. À Tunis, la correspondance de Maureen Mercier.
Depuis la Révolution et la nouvelle Constitution, le pouvoir est entre les mains du Parlement bien plus que dans celle du président. En théorie, cette élection est nettement plus importante que la présidentielle. Lamine Benghazi est le responsable de l'ONG Al-Bawsla. Sa mission, observer l'activité des députés, aider les Tunisiens à mieux comprendre ce régime semi-parlementaire, à s'y intéresser. Mais si, à la veille du scrutin, on lui demande de décrire l'atmosphère qui règne...
Atmosphère assez déprimante, je dois dire.
Parce que c'est l'abstention qui devrait l'emporter, plus encore que lors du premier tour de l'élection présidentielle où moins d'un électeur sur deux a voté. Si les Tunisiens se désintéressent des législatives, c'est parce que ces 5 dernières années, le Parlement a brillé par son inefficacité.
Nous n'avons toujours pas de cour constitutionnelle. Nous avons un Parlement qui a failli dans sa tâche principale, qui est de mettre en place les fondements de la démocratie. Ce Parlement n'a pas su être le cœur battant de la démocratie en Tunisie et à être le moteur des changements des politiques publiques en Tunisie.
Les absences chroniques des députés ont beaucoup choqué. Des députés souvent aussi bien plus occupés à se disputer qu'à légiférer.
Un dernier sondage indique que 75% des citoyens considèrent que le Parlement ne fait pas son travail pour répondre à leurs attentes.
Si l'abstention est à la hauteur de cette défiance, un électeur sur 4 seulement se rendra aux urnes. C'est tout le système politique post-révolution qui risque alors d'être remis en question.
Maureen Mercier à Tunis. La Corée du Nord d'un côté de la table et les États-Unis de l'autre. Les deux pays reprennent aujourd'hui les négociations de dénucléarisation. Des pourparlers interrompus depuis février et le fiasco du sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump à Hanoï. Ces négociations se déroulent en terrain neutre à Stockholm, en Suède et débute quelques jours après le lancement par le régime nord-coréen d'un nouveau missile capable d'être tiré depuis un sous-marin. Des pourparlers très suivis de l'autre côté de la frontière en Corée du Sud qui attend avec impatience un accord même partiel pour reprendre ses échanges avec son voisin du Nord. Précision à Séoul en Corée du Sud de Frédéric Ojardias.
Les précédentes négociations ont échoué en raison de divergences fondamentales entre les deux camps. Les États-Unis exigent une dénucléarisation complète avant toute levée des sanctions. La Corée du Nord, de son côté, veut une approche par étapes, un allègement progressif de ces sanctions qui asphyxient son économie en échange de mesures partielles de démantèlement nucléaire. Mais selon la presse sud-coréenne, les États-Unis et leur négociateur en chef Steven Biegun pourraient à Stockholm se montrer plus flexibles et accepter de suspendre certaines sanctions. Un changement d'attitude qui expliquerait l'optimisme affiché par le chef de la délégation nord-coréenne, Kim Jong-il, qui, avant son départ pour la Suède, s'est félicité des nouveaux signaux envoyés par les États-Unis. Autre sujet sur la table des négociations, les garanties de sécurité que Washington pourrait offrir à Pyongyang et une déclaration qui mettrait formellement fin à la guerre de Corée qui s'est conclue par un simple armistice. Les deux pays pourraient aussi discuter de l'ouverture de bureaux de liaison permanents pour faciliter de futurs échanges. Si la plupart des analystes assurent que le régime n'acceptera jamais de renoncer complètement à l'atome, les pourparlers de Stockholm pourraient au moins déboucher sur un accord partiel et moins ambitieux qui permettrait de geler le programme nucléaire nord-coréen.
Frédéric Ojardias de RFI pour France Culture. Le bilan des manifestations en Irak s'alourdit. Il s'élève désormais à plus de 100 morts et plus de 4000 blessés selon des chiffres de la Commission des droits de l'homme irakienne. Un mouvement qui a débuté mardi pour protester contre la corruption, le chômage et la faillite du service public dans le pays. Les routiers et les chauffeurs de taxis équatoriens recommencent à travailler aujourd'hui. Ils étaient en grève. En cause, la hausse du carburant de plus de 100%. Finalement, le gouvernement a décidé d'autoriser ces hausses de tarifs, mais les syndicats, les étudiants et les indigènes, eux, maintiennent leur mobilisation contre l'augmentation du prix de l'essence et les réformes du Code du travail, Eric Sanson.
Malgré de nombreuses manifestations au sud de Quito, dans le centre historique ou encore devant le siège de la Sécurité sociale, le ministre de la Défense, Osvaldo Jarín, était satisfait de l'application de l'état d'urgence.
Il y avait 200 manifestations jeudi matin, 291 dans la nuit, mais vendredi matin, il y en avait moins de 100.
Toute la journée, les chauffeurs routiers et les taxis ont négocié des hausses de leurs tarifs, rendues inéluctables après l'annonce de la fin des subventions sur les carburants. Certains maires, dont celui de Quito, ont également menacé de retirer leurs autorisations s'ils continuaient de paralyser leurs activités. Deux raisons pour un même résultat, Abel Gomez, porte-parole des fédérations de transport.
Aujourd'hui, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mouvement de grève. Nous demandons au gouvernement de garantir que la reprise de nos opérations se fasse tranquillement sur tout le territoire national.
tranquilidad en todo el territorio nacional.
Malgré ce revirement des chauffeurs, le calme n'est pas revenu en Équateur où les récentes mesures économiques sont critiquées par une partie de la population, comme la vendeuse ambulante Lorena Silva.
Ce gouvernement a viré plein de fonctionnaires et moi j'ai moins de clients. Le commerce est en baisse, on m'achète moins. De quoi je vais vivre? Avec la hausse des carburants, le prix du bus va augmenter, celui du transport et des biens de première nécessité. Je ne vais plus pouvoir travailler.
Une insatisfaction partagée par les syndicats, les mouvements indigènes qui ont décidé de maintenir leur mobilisation.
Éric Sanson, correspondant de France Culture en Équateur.
La bulle économique, Marie Viennot.
Cette semaine, l'Organisation mondiale du commerce a autorisé les États-Unis à taxer les importations européennes de 7,5 milliards de dollars dans le conflit entre Airbus et Boeing. La bulle économique s'interroge sur les chances de succès de la réforme de l'OMC.
Nous sommes à Seattle en 1999. Des activistes américains manifestent contre l'Organisation mondiale du commerce qui réunit sa conférence ministérielle dans cette ville. Ils réclament déjà la prise en compte de l'environnement et du travail dans les règles du commerce mondial. Ils réussiront à bloquer la conférence. 20 ans plus tard, l'OMC est bel et bien bloquée. Mais les activistes n'y sont pour rien. Le blocage vient de l'intérieur, il vient des pays membres. Depuis 2001, aucun nouvel accord global multilatéral n'a été approuvé. Alors il y a ceux comme l'Union européenne qui multiplient les accords bilatéraux, il y a ceux qui persistent à contourner les règles, Chine en tête, et il y a les États-Unis qui tentent d'étouffer en ce moment même l'organe de règlement des différends et surtout son organe d'appel. L'organe d'appel, c'est un peu le tribunal de l'OMC. C'est lui qui tranche les conflits entre les pays membres. Il est normalement composé de 7 juges nommés par consensus. Or, depuis que Donald Trump a été élu, les États-Unis mettent leur veto à toute nouvelle nomination. Quand un juge voit son mandat expirer, il n'est pas remplacé. Aujourd'hui, ils ne sont donc plus que 3 à pouvoir trancher des litiges et en décembre, il ne restera plus qu'un seul membre. Ce qui est cocasse, pour ne pas dire plus, c'est que c'est cet organe d'appel qui a autorisé les États-Unis à prélever 7,5 milliards de dollars sur les importations européennes dans l'affaire Airbus-Boeing. Donald Trump a jugé que c'était une grande victoire pour les États-Unis, mais le suspense reste entier sur la capacité de cet organe d'appel à fonctionner après le 11 décembre. L'Organisation mondiale du commerce est en crise, et cette crise est profonde. Là-dessus, tous ses membres sont d'accord, et les plus grandes puissances commerciales de la planète sont même partantes pour réformer l'OMC. Il y a urgence, elles l'ont dit lors du sommet du G20 il y a un an en Argentine. Le problème, c'est qu'elles ont des visions diamétralement opposées de ce qu'il faudrait faire. Et le problème, c'est que le conflit Boeing-Airbus empêche l'Union européenne et les États-Unis de défendre ensemble leurs intérêts communs. Après tout, que veulent-ils? Ne pas subir la concurrence déloyale de la Chine qui subventionne ses industries et oblige ses partenaires à des transferts forcés de technologies. Ce qu'ils veulent, c'est sauver leurs industries. Donald Trump a choisi la confrontation et les taxes douanières. L'Union européenne continue à croire en une solution multilatérale portée par l'OMC. Elle a même monté un groupe de travail avec le Japon et les États-Unis pour élaborer des propositions sur ces sujets. Mais comment faire bloc face à la Chine quand on est occupé à se faire la guerre à coups de taxes douanières? Comment fustiger ensemble les subventions publiques chinoises quand on s'accuse d'avoir pratiqué soi-même ce sport pour son secteur aéronautique? Le conflit entre Airbus et Boeing n'est pas qu'un désastre pour les producteurs de vin français, de porc espagnol, de fromage italien et de whisky irlandais sur qui s'abat entre autres le courroux américain. C'est aussi une perte d'énergie considérable. Combien de pages d'argumentaires, de contre-argumentaires, de calculs d'évaluation, de contrefactuels et de rétorsions croisées? Combien de juristes payés pour reprocher à l'autre ce que l'on fait soi-même? Toute cette intelligence perdue pendant que la Chine tisse ses routes de la soie, développe son avion low cost et les voitures du futur. Tout ce temps gaspillé quand notre maison brûle. L'urgente et nécessaire réforme de l'OMC pourrait être l'occasion de remettre à plat les règles et faire même du commerce mondial un levier en faveur du climat. Les idées ne manquent pas
et,
comme le disait Jacques Chirac il y a 17 ans,
nous regardons ailleurs.
That's right.
Le temps de votre journée, pour finir, pluvieux sur une grande partie nord-est du pays et au Pays Basque. C'est ensoleillé sinon au sud d'une ligne entre Brest et Nice. Les températures moyennes oscillent entre 13 degrés dans le nord et 23 degrés sur le pourtour méditerranéen.